Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local sur l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui, décidément j'ai envie de chanter, nous sommes aujourd'hui évidemment le jeudi 13 janvier et je suis ravie de vous accueillir dans cette émission autour de l'actualité locale, présentée aujourd'hui avec Andy. Salut Andy.
Salut Marie.
Évidemment tu vas être avec nous tout au long de cette émission, émission où on va parler... Vous vous en doutez, de cette grève historique dans les écoles en France et en Mayenne ce jeudi. Et on va parler plus précisément de leurs revendications. Mais pas que, on va aussi entendre Flore Roux. Elle est chuchoteuse de chevaux et elle intervient auprès de ceux du Refuge de l'Arche pour les aider notamment à reprendre confiance en les humains. Et notre cycle de reportage Pensée locale nous emmène aujourd'hui du côté des Bois d'Anjou, c'est en Maine-et-Loire. Mais avant tout ça, évidemment, on fait un point sur l'actualité avec toi, Andy. Une maison a pris feu cette nuit dans le Nord-Mayenne.
À Saint-Georges-Butavant, au lieu dit le Pigeon Blanc, les pompiers ont été appelés vers 2h du matin pour un feu de comble. L'occupant a réussi à sortir de sa maison avant l'arrivée des secours. Les pompiers ont finalement éteint le feu vers les coups de 7h30 et la circulation sur la Nationale 12, coupée le temps de leur intervention, a pu reprendre. Le propriétaire de la maison a été relogé auprès de sa famille.
Puis l'opération Thermofaçade qui se déroulera cette année à Argentrée et à l'Huisserie.
Si vous êtes propriétaire dans l'une de ces deux communes, vous pouvez bénéficier de cette opération. Elle vous permettra de connaître les déperditions énergétiques de votre logement grâce à des clichés thermographiques pris de l'extérieur. Par la suite, vous serez accompagné pour les projets de rénovation et connaîtrez les aides financières mobilisables lors d'un rendez-vous à la maison de l'habitat. Pour s'inscrire, vous pouvez appeler au 02 43 91 47 66 ou par mail o.hérisson@solia.fr jusqu'au 24 janvier. Une dizaine de logements seront sélectionnés sur chaque commune.
Et puis lui se lance dans un autre défi fou, Maxime Sorel.
Après le Vendée Globe l'an passé, le skipper VNB Mombana Mayenne est parti depuis hier à l'assaut du Kilimandjaro en Tanzanie pour l'association Vaincre la mucoviscidose dont il est le parrain. Il est accompagné de Paul Fontaine atteint de la maladie, de personnel soignant et d'autres sportifs de haut niveau. L'ascension des 5895 mètres d'altitude devrait être réalisée d'ici 5 à 6 jours.
Et puis évidemment, Andy, on passe à ce grand titre de l'actualité, avec notamment à Laval un service minimum d'accueil assuré par la ville.
Et oui, dans les écoles comptant au moins 25% d'effectifs grévistes, les élèves déjà inscrits à l'accueil avant et après la classe pourront être pris en charge jusqu'à 15h30, voire 18h30. La restauration scolaire est également assurée pour les élèves déjà inscrits à la cantine.
Évidemment, on en parlait, cette grève massive dans les écoles aujourd'hui, mais aussi dans les collèges et lycées, à l'appel d'une très large intersyndicale qui rassemble syndicats d'enseignants, d'ATSEM, de personnels territoriaux, de directeurs, de parents d'élèves et même de certains inspecteurs de l'éducation nationale. En Mayenne, selon SNUDI FO53, au moins 85 écoles sont touchées par cette grève. La gestion de la crise sanitaire depuis la rentrée a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, selon Steve Godin, le secrétaire départemental de SNUDI FO53.
La situation sanitaire actuelle, elle met en exergue des problématiques qui sont déjà là depuis très longtemps et depuis trop longtemps dans l'éducation nationale, à savoir le manque de postes, les salaires très bas pour les enseignants. Je rappelle au passage qu'un enseignant en début de carrière, il gagne seulement 1,2 fois le SMIC. C'était 2,3 fois le SMIC dans les années 80. Et pour le coup, effectivement, la crise sanitaire, elle vient mettre en évidence tout ça avec des protocoles qui sont ingérables pour les collègues sur le terrain. On est rendu quand même à la 50e version du protocole sanitaire, je ne sais pas si vous imaginez, des protocoles qui sont annoncés dans les médias, sans communication officielle de notre hiérarchie. C'est insupportable pour nos collègues qui sont vraiment au bout du rouleau. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai eu des dizaines de collègues au téléphone des écoles. J'ai eu des collègues en larmes parce qu'il faut faire face aux parents à qui on annonce autre chose à la télévision. Et pour le coup, nous, on est obligé de leur donner des consignes qu'on reçoit de notre administration, qui sont contradictoires avec un protocole qui, vraisemblablement, va à nouveau être publié vendredi prochain. Donc voilà, tout se passe dans une cacophonie généralisée. C'est vraiment le chaos dans les écoles. Et dans le même temps, on n'a toujours aucun moyen de protection efficace pour l'ensemble des personnels, ESH, les infirmières scolaires, les médecins scolaires. Donc pas de masque FFP2 à disposition, très peu de capteurs CO2. Et pas du tout de purificateur d'air. On approche des situations maltraitantes. En plus, on n'est plus dans le cœur du métier, on n'est plus dans l'enseignement, on n'enseigne plus. On a l'impression que l'école sert de garderie du patronat pour que l'économie fonctionne à tout prix. Le directeur académique n'arrive pas à recruter de contractuels, fait appel à des retraités qui sont déjà, pour certains, à la retraite depuis plusieurs années. Donc au passage, des personnes fragiles. Hein. On était en début de semaine dernière à une quarantaine de classes non remplacées, c'est redescendu un petit peu, mais on est... Donc oui, il y a un manque criant de remplaçants. Sachant qu'en 2 ans, il y a eu 9 postes sur le département de supprimer, que le recteur a pour projet de ne doter le département de la Mayenne d'aucun poste pour cette année, ce sera entériné la semaine prochaine. Donc nous, on estime à une 30aine de postes de remplaçants pour pouvoir à tous les besoins sur le département.
Et le manque de personnel se fait aussi sentir chez les médecins et infirmières scolaires, avec un poste supprimé l'an dernier. Un rassemblement a eu lieu devant la direction académique à 11h30 tout à l'heure et un cortège se dirige vers la préfecture. Une délégation syndicale sera d'ailleurs reçue à 16h par le préfet Xavier Lefort. On va parler de cette chuchoteuse pour les chevaux, donc à laquelle fait appel le refuge de l'Arche. Ce sera après Chaka Ponk et Mysterious Ways.
I believed in my girl, but when she walked out the door, my core began to render just a lot more than before. I gave it all, she took it all, no matter what I say.
That's right.
Well, the girls work in mysterious ways. Now I believe in myself, that's all that I've got. I'm a voluntary man, born to work a lot. I gave them all, my body and soul, so many nights and days. Well, the biz works in mysterious ways.
Thank you.
Mysterious Ways, Chaka Ponk dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'agité du local, je l'ai déjà dit, évidemment sur votre radio, l'autre radio. Et on va parler du refuge de l'Arche à Château-Gontier qui fait appel à des chuchoteuses pour ses chevaux et notamment depuis avril dernier aux compétences de Flore Roux pour 24 de ses chevaux et mulets qui vivent à La Motte à Ménil. Une vingtaine de leurs congénères, eux, sont installés au sein même du refuge de l'Arche. Le but de cet accompagnement, leur apprendre ou réapprendre à faire confiance aux humains et notamment pour les soins vétérinaires.
Alors bonjour, moi c'est Flore Roux, donc enseignante d'équitation et comportementaliste équin.
Donc le refuge de l'Arche a fait appel à vous depuis quasiment 6 mois maintenant. Pour quelles raisons ?
Alors, ils ont un groupe de chevaux qui va en vieillissant dans l'âge et qui ont besoin de plus en plus de soins, alors que ce soit des soins réguliers comme râper les sabots, faire ce qu'on appelle un parage, ou râper les dents, ou alors juste donner des vermifuges qu'on donne plusieurs fois dans l'année. Donc, tout ça, quand il y avait des soins à faire assez urgents, jusqu'à maintenant, ils étaient obligés de sédater les chevaux pour pouvoir le faire en sécurité pour l'humain et pour le cheval. Sauf qu'allant, en vieillissant, les chevaux vont de moins en moins supporter la sédation. Donc, la vétérinaire du refuge a voulu, comment dire, prendre ce temps-là pour éduquer les chevaux, justement, qu'ils aient plus peur de l'homme, qu'on puisse leur faire des soins avec leur coopération, c'est-à-dire sans force, si possible. Voilà. Donc, on a commencé une première fois en avril. Je suis venue une semaine pour observer le groupe. Alors, sachant qu'il y a un groupe ici à La Motte et un groupe sur le refuge de l'Arche. Moi, je m'occupe principalement des chevaux qui sont ici à La Motte. Donc, il y a eu ce temps d'observation. Et puis, pour voir un petit peu comment était le troupeau, comment il fonctionnait, comment moi, je pouvais m'intégrer à ce troupeau-là et pour les travailler, on va dire, intelligemment. Pour, voilà, pas trop changer les habitudes de chacun des chevaux et mulets, puisqu'il y a aussi des mulets. Donc l'objectif sur ces chevaux-là, ce sera déjà qu'on puisse les approcher, qu'ils acceptent l'humain sans souci, qu'ils aient confiance en l'humain, donc d'abord en moi et puis ensuite aux soigneurs, parce que le but de mon travail ici, ça va être de faire la passation finalement aux soigneurs. Une fois que les chevaux sont à l'aise avec moi, il faut qu'ils le soient avec les soigneurs, parce qu'une fois que je pars, c'est eux qui vont avoir à faire tous les soins avec les équidés. Donc, une fois que les chevaux acceptent qu'on les approche, donc on rentre dans leur espace, dans leur bulle, on va petit à petit, donc chaque cheval a son rythme, chaque mulet a son rythme, voir si on peut les toucher, voir si on peut leur demander gentiment les pieds. Donc ça se fait. Chez certains chevaux, ça demandera 2-3 séances. Chez certains, ça demandera 10-20 séances. Donc, ça dépend vraiment de chaque équidé. On va aussi leur apprendre petit à petit à accepter des piqûres, prendre une seringue dans la bouche, qu'on puisse leur toucher les yeux pour soigner les yeux, qu'ils acceptent un licol sur la tête et puis petit à petit qu'ils acceptent à céder à la pression de la longe, c'est-à-dire qu'ils puissent nous suivre en longe où on a besoin de les amener pour les soigner. Alors je ne dirais pas qu'ils sont semi-sauvages, parce que c'est quand même des chevaux qui voient l'humain régulièrement, donc quotidiennement, tous les jours. L'humain vient leur apporter de l'eau et du foin, mais il n'y a pas vraiment d'interaction humain-cheval. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'humain, ils ne vont pas fuir dès qu'ils voient un humain arriver, ou alors fuir mais qu'au bout du pré, ils ne vont pas fuir loin. Mais on pourrait dire qu'ils sont semi-sauvages dans le sens où, pour certains, ils n'ont jamais été touchés par l'humain. Pour d'autres, comme c'est des chevaux qui ont été récupérés par le refuge, il peut y avoir eu des cas de maltraitance. Donc, on n'a pas le passif de chaque cheval, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Après, en travaillant avec eux, en étant tous les jours avec eux, on arrive à savoir finalement un petit peu ce qui s'est passé dans le passé en fonction des réactions de chaque équidé. Ça peut être un cheval qui a eu une mauvaise expérience avec un humain. Alors, quand je dis mauvaise expérience, c'est peut-être l'humain a peut-être voulu bien faire, mais par exemple, mis le licol, trop tiré sur la longe, attaché un cheval qui n'avait pas été habitué, et un cheval qui tire et qui finit par se faire mal, qui se dit « bon, l'humain, c'est pas si génial que ça ». Donc non, on va essayer de faire changer cette émotion-là chez le cheval en passant du temps avec lui, en l'observant, en lui montrant qu'il peut y avoir autre chose.
Ça se fait, vous le disiez, vraiment petit à petit. Là, c'est la troisième fois que vous venez pour à chaque fois des périodes de plusieurs semaines. Est-ce que vous avez déjà vu des progrès, en tout cas, chez certains chevaux ou mulets ?
Alors oui, tout à fait. On a des chevaux qui progressent très vite. Donc, c'était les plus curieux au départ. C'est-à-dire que même si je ne pouvais pas les toucher dès que je suis arrivée, ils venaient voir l'humain, ils venaient voir si je n'avais pas de la nourriture dans les mains. Voilà, donc j'en ai deux qui ont déjà un licol, qui commencent à me suivre en longe. Alors, je ne mets pas encore beaucoup de tension sur la longe, sinon il y a de la panique derrière. Donc ça, c'est petit à petit qu'on va arriver à avoir de la confiance de la part de l'équidé. Il y en a deux à qui je peux prendre les quatre pieds aussi. Donc, alors, ils me donnent les pieds, je ne les prends pas. Je leur demande, ils me les donnent. Et petit à petit, je vais racheter de la durée. C'est-à-dire que je vais les féliciter qu'une fois qu'ils laisseront le pied de plus en plus longtemps. Pourquoi ? Mais parce que le maréchal Ferrand, quand il va venir et qu'il va devoir parer les sabots, il faut qu'il puisse garder le pied du cheval assez longtemps en l'air, sans qu'il y ait de peur ou de défense de la part du cheval. Puis j'ai à peu près la moitié du groupe que je peux toucher, au moins sur l'encolure. Il n'y en a pas encore beaucoup que je peux toucher derrière, sur le dos, mais ça, ça vient petit à petit, on va de plus en plus loin. Et surtout, ce qui est génial, c'est que moi, quand j'arrive, que je me balade dans le troupeau, il n'y a plus ces réactions de peur ou de fuite qu'il pouvait y avoir au début. C'est-à-dire que, alors bien sûr, je les préviens, hein, quand j'arrive dans le pré, je ne rentre pas comme ça à l'improviste, mais voilà, s'ils sont au râtelier, ils vont rester au râtelier, ils ne vont plus fuir. Donc ça, mon but, ça va être de petit à petit, mais dès que les soigneurs auront un peu de temps, pouvoir faire la même chose avec eux. C'est-à-dire qu'ils viennent avec moi, puis ensuite qu'ils y aillent tout seuls, que je les observe, que je leur dise bah, « là non, t'es allé trop loin, là tu vas pas assez vite ». Voilà, que je puisse les aiguiller pour qu'ils puissent faire ça sans moi.
Quels exercices peut-être est-ce que vous faites pour essayer d'aller un petit peu plus loin et justement qu'ils se réhabituent à la présence humaine et aux soins vétérinaires ensuite ?
Alors, ben moi, dans mes outils, j'ai un certain nombre d'exercices que je sais que je vais devoir faire aux chevaux. L'ordre, ben c'est le cheval qui va me le dire. Donc, le premier, c'est déjà, ben, la première semaine, lors de la phase d'observation, c'était déjà ben, qu'ils m'acceptent dans leur groupe, dans leur pré. Voilà, c'est leur lieu de vie, hein, c'est leur domaine vital, leur pré. Donc, rentrer dedans, c'est pas anodin. Ensuite, ça va être, est-ce que le cheval m'accepte dans ce que j'appelle sa bulle ? C'est-à-dire, suivant les chevaux, sa bulle, ça va être à 1 mètre de lui ou ça va être à 10 mètres de lui ? Alors moi, ce que je préfère, c'est que le cheval se rapproche de moi. Donc petit à petit, je vais le laisser se rapprocher de moi. Et s'il veut venir me renifler ou venir voir ce qu'il y a autour, ben, je vais le laisser faire. Certains chevaux, c'est moi qui ai dû aller vers eux, tout en observant qu'il n'y ait pas de peur et de crainte et pas de réaction de fuite. Et je m'arrête toujours avant qu'il y ait une réaction de peur ou de fuite. Donc ça, ben, c'est beaucoup d'observation de ma part. Et voilà, vraiment être attentive au cheval, au ressenti que j'ai par rapport au cheval, qui peut être parfois... Des fois, physiquement, je ne vois rien. Par contre, je sens une grosse tension. Je me dis, oula, là, il faut que je parte. Et ça, c'est à force de passer du temps avec eux qu'on a ces ressentis-là qui se développent. Une fois qu'il y a la phase d'approche, c'est-à-dire que le cheval m'accepte autour de lui dans sa bulle à 1 mètre, ben, je vais petit à petit naviguer autour de lui. C'est-à-dire que je sois en face de lui à 1 mètre, ça peut ne pas l'effrayer, mais que je passe autour de lui, ça peut l'effrayer.
Vous disiez aussi être très observateur, observatrice en l'occurrence. Quels petits signes peuvent vous mettre en alerte pour dire « Oula, là, c'est peut-être un petit peu trop loin, on va arrêter là ».
Alors dans les signes chez le cheval, ben, ce sera tout ce qui est signaux de stress en fait. Donc un signe de stress, ça peut être des oreilles qui se plaquent en arrière sur la tête. Ça peut être une tension musculaire, c'est-à-dire que le cheval est détendu. Ou par exemple sur 3 pattes avec un pied au repos et tout d'un coup il met les 4 pieds au sol et il relève l'encolure, il se tente partout. Là ça veut dire que je suis allée trop loin, qu'il y a eu une peur, une crainte ou quelque chose au loin qui lui a fait peur. Parce que ça peut être moi mais ça peut être aussi l'environnement autour. Quand je travaille à un cheval, il faut que je fasse attention où sont les autres. Donc même quand je travaille avec un, j'observe derrière où sont les autres chevaux. Pourquoi ? Parce que un autre cheval peut venir chasser mon cheval ou me chasser moi. Donc il faut que je sois à l'écoute de tout ça. Quand je vous dis, c'est le cheval qui me le dit, c'est-à-dire que mais il y a des chevaux qui vont avoir une capacité de concentration très courte. C'est-à-dire que les premières fois, j'ai peut-être les travaillé que 2-3 minutes. Des chevaux, je peux les travailler. Alors, je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps, ils sont trop nombreux, mais je pourrais les travailler 1 heure sans qu'ils se lassent. Donc ça, on s'adapte. L'apprentissage, il n'est jamais linéaire. Je suppose que c'est comme avec les humains. Mais chez les chevaux, ce que j'ai su observer, c'est que voilà, ils apprennent. Alors, régresser, ils ne régressent pas vraiment, mais il y a un moment où ça stagne. Et puis après, ça peut augmenter d'un coup. Ou alors, ça peut être plus linéaire, mais ça dépend des chevaux. C'est jamais très, très linéaire.
Il y a une cagnotte de financement participatif qui a été lancée justement pour cette action-là. Le Refuge de l'Arche parlait de chuchoteuse. Est-ce que vous vous définissez comme ça aussi ?
Alors, pas vraiment, mais c'est un terme qui parle aux gens, de par le film qui est sorti il y a un petit moment maintenant, le film L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. Moi, je ne dirais pas vraiment chuchoteuse. Comportementaliste équin, ça me va bien, parce que c'est vraiment ça, observer le comportement des chevaux et réagir en fonction de ce qu'ils nous disent et en fonction des objectifs qu'on va atteindre avec eux. Alors déjà, voir que ce soit des objectifs réalisables dans le respect du cheval, mais c'est un terme qui est mignon.
Tout ça, j'imagine que ça s'apprend, ça prend du temps aussi. Comment est-ce que vous vous êtes formée à ça ?
Alors à la base, j'ai fait mes études classiques et je me suis formée comme enseignante d'équitation. Et en fait, dans les clubs, je commençais un petit peu à m'ennuyer parce que j'avais une douzaine d'élèves, une douzaine de chevaux. C'était dur pour moi de personnaliser l'apprentissage. Donc ça prend aussi avec la pédagogie, avec le temps. Et le mode de vie qu'avaient les chevaux de club ne me convenait pas forcément. C'est-à-dire que la plupart étaient en boxe, seuls, pas en groupe. Donc ce qu'ils ne pouvaient pas régler en groupe, ils le réglaient pendant mes cours. Jusqu'à ce qu'on on explique à chaque cheval où est sa place. En fait, il y avait un gros... Ce qui a beaucoup évolué, les clubs d'aujourd'hui, donc ça c'était il y a 20 ans, les clubs d'aujourd'hui ont beaucoup évolué. Ils font attention à l'alimentation des chevaux, aux soins des chevaux, au mode de vie des chevaux. La plupart sont de plus en plus au moins en groupe. Si ce n'est pas en troupeau, c'est en petit groupe. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, moi j'aime beaucoup les chevaux, j'aime beaucoup la pédagogie, apprendre aux élèves, mais apprendre dans ces conditions, c'est plus possible. Rester 8 heures dans la carrière, du matin au soir, avec les mêmes chevaux, autant moi que les chevaux, on n'en pouvait plus. Je suis partie à l'étranger, j'ai vécu 2 ans, où je suis allée chercher d'autres méthodes, des choses que je n'avais pas pu apprendre en France, et j'ai travaillé dans ce qu'on appelle des cattle stations, donc c'est des ranchs en fait. Et dans ces ranchs, les chevaux, ils font partie de la vie des humains, des hommes de bétail et de chevaux. En Australie, ils sont, pendant 6 mois, ils vivent en troupeau, ils sont libres. Ils ont une vraie vie de cheval. Et pendant 6 mois, ils vivent dans les écuries. Les humains s'en servent pour rassembler les troupeaux de bétail, travailler le bétail. L'idée d'une cattle station ne me plaisait pas trop, mais vraiment le mode de vie des chevaux et des humains qui travaillent avec les chevaux m'a appris énormément de choses. Donc j'ai appris à observer, parce que j'ai pu observer des groupes de chevaux vivant semi-liberté pendant 6 mois. Donc j'ai eu la chance d'avoir le temps de les observer, voir leur comportement, et ça c'était une école extraordinaire pour moi. Et apprendre d'autres méthodes aussi. Ce que j'ai appris là, j'étais désireuse de venir le partager en France. Dans le reste de mon métier, j'accompagne le binôme cavalier-cheval. Et il me manquait des outils, donc de connaissances de l'humain. Donc je me suis formée en naturopathie humaine pour avoir des outils de gestion du stress, de gestion des émotions. Voilà, donc une fois que j'ai eu tout ça, j'ai encore continué à me former. Et j'ai fait une formation de comportementalisme équin chez une personne qui s'appelle Coralie Fournier. Donc il m'a encore appris d'autres méthodes. Avec elle, j'ai appris la technique du renforcement positif et l'outil du clicker training. Alors le clicker training, c'est un petit objet, j'en ai un là, voilà, c'est un petit signal, voilà, un clic, qui va préciser au cheval le moment où il a bien fait ce qu'on attendait de lui. Et derrière ce clic va arriver une récompense. Alors la meilleure récompense pour un cheval, un de ses besoins primaires, c'est manger, l'alimentation. Donc on va se servir de l'alimentation. Chez certains chevaux, par exemple au début, je ne pouvais pas les toucher, donc je ne pouvais pas leur donner à manger. Donc la récompense, c'était partir. T'as fait quelque chose de bien, je m'en vais. Ça veut dire que je te laisse tranquille. Chez des chevaux, une fois qu'on peut les toucher, s'il y en a qui n'aiment pas trop l'alimentation ou qui ne sont pas habitués, ça peut être une gratouille. Donc voilà, on cherche ce qui va renforcer le plus fortement le comportement du cheval. Pourquoi on veut renforcer le comportement du cheval ? Pour qu'il soit amené à le reproduire. Donc petit à petit, il va apprendre, si on renforce un comportement, je le reproduis. Si je ne suis pas renforcée sur ce comportement, c'est peut-être pas le bon. Du coup, j'ai pas de récompense, c'est pas intéressant, donc je le reproduis pas. Et il va s'éteindre petit à petit. Le fait que le cheval ait une récompense, ça le motive dans son apprentissage et dans son travail, et on obtient des résultats beaucoup plus rapidement que si on travaille sans récompense. Et en parallèle de ça, j'ai aussi des outils de traitement énergétique, donc de communication animale aussi. C'est-à-dire que je vais me connecter au cheval, essayer d'aller capter s'il y a des tensions, d'essayer d'aller capter s'il y a des choses qui vont moins bien ou des choses qui vont bien, puis voir avec lui qu'est-ce que je peux rééquilibrer, comment je peux le rééquilibrer et comment je peux l'aider. Et surtout, lui faire comprendre de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'ai interagi avec lui. Voilà, donc c'est des outils qui permettent vraiment de renforcer l'efficacité du clicker training et du renforcement positif.
Là, vous intervenez avec le refuge de l'Arche. Autrement, qui est-ce qui fait appel à vous ?
Alors, souvent, c'est des propriétaires qui ont des chevaux soit chez eux, soit dans des centres équestres, voire même des dirigeants de centres équestres qui ont des problèmes avec leurs chevaux de club. Et c'est des personnes qui se retrouvent dans une impasse avec leur cheval. Donc, soit une impasse relationnelle, une impasse technique. Par exemple, un cheval qui ne veut plus monter dans un van. J'ai aussi des éleveurs de chevaux qui m'appellent pour ce qu'on appelle le débourrage. Alors, le débourrage, c'est prendre un jeune cheval, un poulain, qui n'a jamais eu de cavalier, et lui apprendre à accepter la selle, le filet, donc tout le matériel, lui apprendre à accepter les situations qu'il pourra rencontrer en tant que cheval de selle, et lui apprendre à accepter le cavalier, et aussi lui inculquer les premiers codes, c'est-à-dire tourner à gauche, tourner à droite, marcher, s'arrêter. Je forme des enseignants aussi à enseigner l'équitation d'une manière un peu plus éthique, on va vers un mieux-être du cheval, un bien-être du cheval et un bien-être du cavalier qu'on ne prenait pas forcément en compte avant. Pourquoi ? Parce que l'équitation, à la base, elle est militaire. Donc, il fallait que ce soit efficace. Et bah, le bien-être du cheval et du cavalier, ça passait en second temps. Donc, petit à petit, ça passe de plus en plus en premier plan. Et on se rend compte que ben, si le cheval il est bien dans ses sabots, bien dans sa tête, et qu'il vit avec des chevaux avec qui il s'entend bien, qu'il est suffisamment nourri, qu'il se sent bien dans son lieu de vie, il sera plus apte à interagir avec l'humain.
Flore Roux devrait travailler avec ses chevaux au plus tard jusqu'à fin 2022, mais certains seront sans doute prêts plus tôt. Et en parallèle, les chevaux du Refuge de l'Arche, eux, bénéficient de l'accompagnement d'une autre comportementaliste équin, Caroline Rayard. On fait une petite pause en musique avec Yael Naïm et Camille qui se sont associés sur ce titre « I Walk Until ».
I walk until drops, I walk until you grow. I walk until, I walk on tiptoes, I feel like I'm starting down an endless road.
Le monde est-il las, le monde est-il saut. Le monde est-il pile ou face, le monde est-il sur plaine, sur peau.
Yael Naïm et Camille sur ce titre « I walk until » dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et c'est l'heure de passer à notre cycle de reportages consacré ce jeudi au Drive des Bois d'Anjou, une association portée par des habitants, des producteurs et des artisans de la commune du même nom située en Maine-et-Loire. Pour trouver facilement évidemment des produits locaux, mais aussi valoriser les producteurs des différentes communes, je vous propose d'écouter ce reportage de Michel Boutreux de RPS FM.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On est sur la commune des Bois d'Anjou et j'ai à côté de moi Monsieur Denis Drouin qui est président du Drive des Bois d'Anjou.
Le Drive des Bois d'Anjou, c'est une association de producteurs et de consommateurs qui sont organisés pour proposer localement une solution pour les gens qui veulent qui veulent avoir des produits locaux. Il y avait une demande et puis ça c'est voilà. Il y avait une demande clairement et du côté des producteurs pour trouver des débouchés locaux et puis du côté de consommateurs qui voulaient avoir accès à des produits. Ils pouvaient savoir d'où ils savent d'où ils viennent. Ils connaissent le producteur, ils le rencontrent sur des permanences. Cette idée de circuit court et de se nourrir de façon saine et locale, c'est quelque chose qui monte. Et du coup, il faut s'organiser en face pour que ça puisse fonctionner. Il faut faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Et le drive sert à ça, est une des propositions. C'est un beau travail d'équipe entre producteurs et bénévoles. On a un site internet. Jusqu'au lundi soir minuit, on y va faire ses commandes. Et puis après, le week-end d'après, on vient récupérer son panier dans 5 points de distribution. À Saint-Georges-du-Bois, à Brion, à Cornillé, à Mazé et à la MFR de G. Il y a un travail de communication qui a été fait tout au long des années, depuis la création du Drive. Le site internet est évidemment un moyen de communication important, Facebook, etc. Il y a un équilibre qu'on essaye de trouver entre le volume de commandes et le volume qui est produit, parce que par définition, quand un producteur a 50 salades, il a 50 salades. Mais c'est un équilibre qui se travaille bien. On est dans la réaction. On a des producteurs qui mettent leurs produits sur le site. On a des consommateurs qui, toutes les semaines, viennent les chercher. Donc ça fonctionne de façon très souple et très intéressante. De base, il y a l'adhésion à ce principe-là. On est ensemble dans un gagnant-gagnant de territoire. On peut adhérer évidemment à l'association. Après, il y a un engagement des uns et des autres à tenir des permanences, évidemment, parce que là, il y a ces permanences. Ou il y a un beau travail d'équipe, là aussi, entre producteurs engagés dans l'association et consommateurs qui veulent que ça fonctionne. On va faire sa commande week-end après week-end. C'est un rythme à prendre. Là, je vous parle moi en tant que consommateur. C'est vraiment un rythme à prendre. On se dit tiens, le week-end prochain, j'aimerais bien avoir dans mon panier de la viande, des légumes, de la confiture, de la bière. Enfin voilà. Alors c'est un mode de consommation qui est différent parce qu'effectivement, on peut pas se réveiller le vendredi soir pour se dire tiens demain, j'aimerais bien avoir un filet mignon. Faut prendre ce rythme-là. Il n'y a aucune contrainte annuelle. Chacun vient régulièrement. On a une bonne partie des gens qui sont adhérents au Drive et consommateurs du Drive. Compris un rythme, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les semaines, ils viennent chercher un panier qui ressemble. Après, mais ils sont totalement libres d'aller une semaine prendre plus de viande, plus de légumes, moins, etc. Chacun, vraiment, là c'est une formule qui est totalement souple. Oui, on a un local actuellement à Fontaine-Guérin, c'est sans doute une formule qui évoluera. Oui, on a besoin d'un site où les producteurs amènent les produits, puis après, on va se charger de les dispatcher dans les différents points de distribution, avec des bénévoles dans chacun de ces points de distribution pour préparer les paniers pour les gens et voilà. Enfin, on fait partie du paysage et on fait partie de ce qui dynamise un territoire. C'est-à-dire que dès lors qu'on crée des lieux où se rencontrent des producteurs qui développent leur marché et des consommateurs qui recherchent des produits locaux. On est des acteurs du territoire, donc il y a une question de promotion et de visibilité. Il y a aussi juste une question de sens qu'on met là-dedans. Parce que cette association, c'est pas simplement une alliance économique, c'est aussi des gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui parlent des produits, qui parlent, etc. Donc il se joue aussi un enjeu d'animation des villages, en fait. Après, ce sont des produits. Alors certains sont des produits transformés localement. Autrement, oui, c'est ça, c'est produits de saison. Et... Oui, le contact, c'est vraiment le site. Faut vraiment aller sur le site, ça se fait très très simplement. On s'inscrit sur le Drive. Après, ça permet d'accéder, de faire ses commandes. On paye par carte bancaire, tout est réglé comme ça. Et puis dessus, il y a les coordonnées pour nous joindre si au besoin. Notamment s'il y a des gens qui veulent rejoindre. Alors si on veut rejoindre comme un consommateur, ça suffit. Si on veut rejoindre comme bénévole, il y a un contact téléphonique pour... c'est le Drive des Bois d'Anjou. Si vous mettez dans votre moteur de recherche Drive des Bois d'Anjou, vous tomberez sur notre site, sans difficulté.
Michel Boutreux, RPSFM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Et le cycle de reportage Pensée locale, évidemment, se continue. Vous pouvez d'ailleurs tous les réécouter sur notre site l'autreradio.fr. Et puis le prochain, ce sera évidemment, on garde le rythme, jeudi prochain. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, mais restez avec nous puisqu'à 19h, il y aura Le Masque et la Tronçonneuse en direct consacré à la saga Matrix. La saga Matrix qui a aussi inspiré l'émission qui va suivre à 21h. Évidemment, ce sont sont les mêmes animateurs, émission Quand la musique est bof pour bande originale de film. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, très belle journée à tous.